Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Got gun. Holt left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky. Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 536 du podcast Touchdown Actuel. On était très heureux de vous retrouver pour une nouvelle preview, déjà la 10e semaine de NFL qui s'annonce devant nous avec Victor Roulier. Bonjour Victor.
Et bonjour Alain, bonjour à tous.
Fidèle au poste, Victor, tu dois être à 8 sur 10 non, dans les previews, quelque chose comme ça.
Ouais, quelque chose comme ça, ouais.
Bon, Victor, on vient de passer la mi-saison. On va donc parler des trophées de mi-saison. On va parler d'un choc entre deux équipes qui ont parmi les meilleurs bilans de la ligue actuellement. Le hypomètre, évidemment, un match à Munich, les pronos et les cotes. Encore du très gros programme pour cette émission.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
On commence donc cette émission avec notre débat de la semaine. Je ne sais pas si on peut dire débat du coup, mais en tout cas on va décerner les trophées de mi-saison puisque les équipes ont joué 8 ou 9 matchs selon leur semaine de repos sur les 17 matchs qu'il y a joué au total. Je pense que c'est à peu près le bon moment pour parler de trophées MVP, coach de l'année, joueur offensif, joueur défensif, rookie offensif, rookie défensif et même comeback si on est un peu foufou. On va commencer par le... Est-ce que tu veux qu'on commence par le plus prestigieux ou alors on commence par le plus... On peut commencer, tu vois, par
moi, comeback. Moi, je dirais qu'il faut monter en puissance.
Ouais, t'as raison, c'est mieux. Allez, on commence par comeback. Alors, qui est le comeback player de l'année?
Ben, je vais te dire, pour une fois, moi qui n'aime pas ce trophée, il y a des joueurs que j'ai envie de récompenser. Enfin, il y en a deux, surtout. Et celui que j'ai choisi, c'est Geno Smith. Parce que l'autre équipe, l'autre que j'avais, c'est Saquon, mais je m'occuperai de Giants plus tard. J'ai choisi Geno Smith parce que pour moi, il fallait quand même récompenser cette renaissance des Seahawks. Voilà, j'ai dit, hein, je voulais récompenser et Seahawks et Giants, donc j'ai fait dans un sens, ça aurait pu être dans l'autre. Mais je trouve que Geno Smith, il a été drafté il y a quasiment 10 ans, et là, on a l'impression qu'il a une renaissance. Enfin, à part peut-être Gannon. Est-ce qu'on a déjà vu un mec comme ça être dans l'ombre aussi longtemps et d'un coup devenir, faire une saison extraordinaire? Franchement, aujourd'hui, Geno Smith, tu peux le mettre dans le top 5 MVP, c'est pas choquant.
Alors, deux trucs. Un, tu m'as piqué mon joueur parce que je voulais faire le foufou en disant, tu vois, le trophée, il est pété, je m'en fiche qu'il n'était pas blessé, il revient du cimetière des quarterbacks et ça vaut tous les retours du monde, etc. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Saquon Barkley est deux aussi. 73,1% de passes complétées, leader de la ligue, c'est incroyable. Et tu le disais, bah, il revient d'entre les morts. Il a été drafté par les Jets au second tour en 2013. Et j'ai pas encore l'émission rétro de la semaine, mais je suis en train de chercher des émissions qu'on a fait sur Geno Smith parce que je voudrais sortir une rétro en mode quand Geno Smith était nul, tu vois. Donc il faut que je regarde, on a des émissions entre 2013 et 2016, il faudrait que je vois un peu quel est le point le plus bas, on va dire, de la story Geno Smith. Mais oui, c'est vraiment incroyable. Donc je pense pas qu'il y ait de gros débats là-dessus. Geno Smith, Saquon Barkley, t'en voyais d'autres ou ça me paraît être les deux principaux. Moi, c'est les deux qui me viennent.
Non, il y en a certains qui diront McCaffrey, mais en vrai, c'est, ouais. Pour moi, c'est ces deux-là.
Très bien. Rookie offensif, rookie défensif. Alors, pourquoi je te dis les deux en même temps, c'est que en le faisant, je me disais ce serait trop cool de faire un trophée de rookie groupé par équipe, tu vois, de QV en fait. Parce ouais. que je me disais, les trophées rookie offensif défensif avant la blessure de Breece Hall, ça aurait presque pu être un match Seahawks-Jets.
Ah non, avant la blessure de Breece Hall, c'était Jets-Jets.
Ouais, mais tu vois, après, on est à mi-saison. Tu vois, je te parlais sur la saison complète.
Après, oui, ça aurait pu être un beau duel. Le 1 et 2 sont dans ces deux équipes si tu prends Breece Hall, oui.
Bah, c'est ça. T'as Breece Hall, Kenneth Walker, t'as Sauce Gardner et Tarik Woolen. Donc, je me disais, ça pourrait être cool de faire un trophée de QV de rookie, non ?
Oui, 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 mais moi, j'aime bien la séparation offensif-défensif, je dois t'avouer.
Bon, je garde mon idée, mais je la resoumettrai à Roger Goodell dès que je le croise. Ton rookie défensif ? Bon, il n'y a pas trop de...
Sauce Gardner. J'adore Woolen et pour une fois, j'avais raison, parce que j'avais mis 34e sur mon big board et il a fini au 5e tour. Mais Woolen est un athlète extraordinaire, un super cornerback, mais la domination que montre Sauce Gardner depuis son entrée dans la Ligue, et c'est pas une surprise, hein, on l'avait quasiment tous cornerback numéro 1, mais dominer à ce point, ça fait longtemps que j'ai pas vu un rookie cornerback dominer à ce point. Là, on a l'impression qu'il a un potentiel d'Arrel Revis à être sur son île dans 2 ans, quoi. Donc, non, Sauce Gardner, il n'y a même pas de débat pour moi.
Oui, et puis tu dis, on le savait, mais il y a plusieurs cornerbacks hein, dans l'histoire ces derniers temps où on a dit, on le savait, etc. Et pourtant, ça ne se faisait pas toujours. Donc, le savoir, c'est bien, le confirmer, c'est mieux. Sauce Gardner, 2 interceptions, 13 passes déviées, c'est du costaud. Tarik Woolen en a 4, mais le truc, c'est qu'il y a déjà moins de monde qu'aux lancés vers Gardner dès maintenant. Il y a aussi le côté leader, parce que mine de rien, il symbolise aussi le renouveau un petit peu des Jets. CJ Mosley disait que son énergie elle était contagieuse, etc. Donc Sauce Gardner avec Tarik Woolen en joli dauphin. Rookie offensif, alors c'est plus compliqué parce qu'on a perdu Breece Hall.
Oui, bah, ça se joue entre Kenneth Walker et Damien Pierce.
Ouais,
tu voyais qui écrit sur AV?
Bah, il y a Chris Olave, ouais, qui est quand même dans le...
Ok. Non, moi, j'ai bien en dessous des deux autres.
Ok.
Mais pour le coup, je choisis Kenneth Walker. Alors, du coup, ça fait 2 trophées pour les Seahawks. Mais parce que, là encore, je veux dire, Damien Pierce, oui, il performe. Enfin, il performe dans une équipe qui joue rien, où, en gros, ils le nourrissent de ballons, et c'est à peu près tout. Kenneth Walker, on a l'impression que... c'est pas de la faute de Pierce, hein, mais bon, Kenneth Walker est décisif dans des matchs où il apporte la victoire. Donc pour moi, c'est quand même un peu différent, quoi.
Bah, tu vois, je suis presque allé quand même sur Chris Olave. Parce que j'aime pas dire ça parce que ça fait dévalorisant, alors que c'est pas non plus le propos. Mais Chris Olave, il a joué les 8 matchs de son équipe. 43 réceptions, 618 yards de touchdown. T'es sur une base de saison à 1200 yards. Walker, il est sur une base de saison à plus de 1 milliard pour un coureur, mais j'ai tendance à être plus impressionné par l'adaptation rapide d'un receveur dans une équipe en plus qui s'est partagée entre Jameis Winston et Andy Dalton. Hein, il n'arrive pas à Kansas City. Donc, moi, j'irai sur Chris Olave. Donc, on a un Olave, un Kenneth Walker. Encore une fois, clin d'œil à Breece Hall qui l'aurait eu s'il était encore sur patch, je suppose.
Oh, bah, après, on ne peut jamais savoir parce qu'il reste une demi-saison, mais. Sur la première partie de saison, oui, c'est brillant.
Oui, voilà, je parlais sur le début. Joueur défensif de l'année. Bon, on a fait une émission où on disait qu'il était meilleur avec Aaron Donald, donc je suppose que...
J'allais dire, on a fait 20 minutes d'émission sur Micah Parsons, donc je ne sais pas s'il y a besoin d'y revenir. Mais,
8 sacs en 8 matchs, 2 passes déviées, 2 fumbles forcés, un touchdown décisif contre les Bears.
Et puis récompenser une défense dominante des Cowboys, non, pour moi... Pour moi, il n'y a même pas l'ombre du début d'un débat.
Très bien. Joueur offensif de l'année.
Pareil, je n'ai pas l'ombre du début d'un débat. Parce que c'est un joueur que j'ai hésité à mettre dans le MVP. Okay. C'est Tyreek Hill.
Ah bah pareil.
Quand même, il a déjà milliards. Et puis, je suis désolé.
1104. Non, 1104 même.
Et je ne veux pas dévaloriser la performance de Tua qui est très bon, etc. Mais quand tu regardes les metrics... la séparation que Hill et Waddle font par rapport aux défenseurs est juste impossible, quoi. T'as vraiment l'impression que tu as, ils se retrouvent à nouveau à jouer des Alabama contre Southern Methodist ou Bowling Green, quoi. Enfin, vraiment, là, c'est trop. Pourtant, Dieu sait que je déteste Eric Hill pour des raisons extrasportives. Mais là, tu peux pas donner le trophée à quelqu'un d'autre que lui. Parce que moi, je considère le trophée offensif comme le meilleur non-quarterback. Hein. Ça me saoulerait que ça soit un le quarterback qui a perdu le MVP, qu'il gagne, tu vois, en compensation. Ça me saoulerait. Donc, Tyreek Hill.
Tyreek Hill qui a 76 réceptions, c'est le leader de la ligue. 1104 yards, c'est le leader de la ligue. 122,7 yards par match, c'est le leader de la ligue. Et puis il faut le dire quand même, parce qu'on s'est beaucoup demandé comment les Chiefs allaient faire sans lui, etc. Mais on pouvait aussi légitimement se demander comment lui allait faire sans les Chiefs. Et il a quand même répondu de manière assez phénoménale. Et tu le dis, il transforme cette attaque de Miami. Tu as Tagovailoa, lui donne le ballon, il faut lui donner le ballon, et c'est tout à son honneur, etc. Mais évidemment, avoir un receveur comme ça, ça te facilite la vie. Et il est monstrueux pour cette attaque de Miami. Donc, joueur offensif de l'année à l'unanimité de nous deux, ce qui est déjà un jury très représentatif. Le coach de l'année, là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de débats, en fait. Mm-hmm. Coach de l'année, j'ai l'impression que pour le coup, il y a beaucoup plus de prétendants.
Oui, je dirais qu'il y en a trois pour moi. Et mon choix, c'est Brian Daboll. Mon choix, c'est Brian Daboll parce que il a un des 5 pires effectifs de la ligue. J'ai pas peur de dire. Et il a 6 victoires pour 2 défaites. Une victoire, tu peux dire c'est de la chance. 2 victoires, tu peux dire c'est beaucoup de chance. 6 victoires, c'est du coaching. Il y a un moment, il a réussi à revitaliser Daniel Jones. Il joue sur les forces. Il a remis Saquon Barkley en confiance. La défense, et c'est là où je récompense Brian Daboll, mais je récompense aussi Martindale, parce que la défense de Martindale est transfigurée. Clairement, pour moi, c'est Daboll.
Pour moi aussi, pour toutes les raisons que tu as dit, il a un des pires effectifs de la Ligue. C'est celui qui fait le plus avec le moins, donc je pense que c'est la meilleure définition d'un bon coach. Hein, c'est aussi simple que ça. Après, dans « il fait le plus avec le moins », on a cité Geno Smith, je peux pas ne pas citer Pete Carroll dans les prétendants. Personne, mais absolument personne. Alors moi, je veux bien, hein, vous pouvez ressortir tous les tweets que vous voulez. Il y en a qui vont me dire que tout le monde avait prévu d'avance, que machin. Après, on peut balancer des âneries au hasard et puis espérer que ça colle de temps en temps. Hein, mais personne, en bonne foi, pouvait dire que Seattle serait à 6-3. Je dis une ânerie 6, sur le.
Ouais, 6-3. Mais moi, je te l'ai dit, j'ai déjà récompensé Seahawks 2 fois. Alors du coup, je voulais récompenser Giants, c'est tout.
Pourquoi je ne trouve.
Et le troisième, c'est Sirianni.
Et le troisième, c'est Sirianni, parce que, évidemment, t'es une équipe invaincue. Donc, ils sont à 6-3. Ouais. Sirianni, oui, évidemment, est le troisième. Et ça poserait un vrai dilemme. Je pense pas qu'ils vont aller à la saison parfaite, mais si t'en lâches qu'un, si tu finis à 16-1,
ouais.
C'est dur de pas le donner à un coach qui finit à 16-1, tu vois.
Ça dépend. Si les Giants sont rentrés dans le rang et font 8-8, ouais. Si les Giants finissent à 12-5, ah, quand même, quoi.
Ouais.
Pardon, c'est... 8-8, ça n'existe plus, donc 9-8 ou 8-9. Oui.
Mais c'est compliqué quand même, parce que avant, t'avais des coachs qui finissaient à 15-1 mais, ou des très hauts, mais on disait, ah, mais c'est un Belichick, il l'a déjà eu, ou un machin.
Ah, mais ça a toujours été ça. Coach de l'année, c'est, t'as l'impression qu'il, sauf cas de force majeure, il le donne à un nouveau. Ça, Matt Nagy a été coach de l'année, hein, je le rappelle.
Ouais, mais donc, oui. Ce qui prouve aussi que là, on est dans le débat pour rire un peu. On n'est pas dans la prédiction de grande carrière. Le MVP, c'est peut-être celui où il y a le plus de débats.
J'allais dire un gros mot. C'est bazar.
Ouais.
C'est bazar. Franchement, je ne sais plus. Il y a une semaine, je savais.
Alors, est-ce qu'on dit il y a un trio Mahomes, Allen, Hurts?
Ouais. J'ai presque envie de rajouter Tagovailoa, mais parce que on sait que les quarterbacks sont surrécompensés, etc. Mais oui, le trio, oui, c'est Allen, Mahomes, Hurts.
Donc dans quel ordre?
Jusqu'à la semaine dernière, j'avais Allen premier.
Ok.
Le problème, c'est que mauvais match contre les Jets, plus, et c'est ça qui m'embête le plus, blessure apparemment, donc. Est-ce qu'il va jouer diminué? Est-ce qu'il va manquer des matchs? Est-ce que tout ça? Ça risque
Alors, on
n'est
pas dans la prédiction, hein, on récompense le début de saison aussi. Hein.
Certes, mais ce match face aux Jets fait qu'il passe deuxième et que je mets Mahomes premier.
Mais j'avais la même chose. J'avais Mahomes en 1 parce que 21 touchdowns, c'est le meilleur NFL, 6 interceptions, c'est pas le meilleur, mais c'est très bon. Et 2605 yards lancés, c'est le meilleur en NFL. Et en plus, il est clutch, il l'a montré lors du dernier match contre Tennessee. Il y a aussi, il faut pas négliger, on parlait de valuable, donc ce qu'il apporte. On disait que Tyreek Hill apporte à Miami. On se demandait comment Patrick Mahomes allait se débrouiller sans Tyreek Hill. On voit que ça continue, qu'il fait briller des mecs comme Juju Smith-Schuster ou des choses comme ça. Donc, il est valuable. C'est le mec le plus important. Valuable, ça veut dire important, hein, grosso modo. C'est le mec le plus important de cet effectif.
Ouais. Après, tu me permettras de dire que ces dernières années, c'est un peu galvaudé parce que on l'a souvent donné à des équipes qui ont dans les premiers, deuxième, troisième meilleurs bilans. Alors que si vraiment tu récompensais le valuable, t'aurais donné à McCaffrey
bien
aux Panthers, par exemple.
Bien sûr, mais j'intègre un peu les deux, quoi.
Oui,
c'est-à-dire que
non,
là, dans la discussion, il a montré en plus ces derniers jours. Alors non pas qu'Allen le soit moins, hein, à Buffalo, il l'est aussi énormément important, mais voilà, Mahomes pour moi a montré et Hurts un tout petit peu en retraite ces deux-là parce que Philadelphie a montré quand même qu'il pouvait gagner de plein de manières. Quand Mahomes et Allen ont quasiment pas de jeu au sol d'ailleurs, hein, Hurts il peut se reposer sur une équipe quand même un peu plus complète pour gagner, ce qu'enlève rien au fait qu'il fait pas d'erreur et que cette équipe tourne bien. Mais voilà, sur le côté valuable.
D'accord, mais bon, déjà il a autant de touchdowns que Mahomes, hein, parce qu'il en a 6 ou 7 au sol, hein, faut prendre aussi ça en compte. Mais en fait, la question n'est pas de savoir en termes de niveau pur, hein, en termes de niveau pur, Mahomes est meilleur que Hurts, ok, mais là encore, je reprends un peu ton exemple. Si les Eagles sont à 16-1, ça me rappelle un peu les Panthers de Cam Newton. Est-ce que t'es pas obligé de récompenser l'équipe qui finit en 16-1? Je dis pas nous, mais au niveau des votants, ça va jouer, hein. Le bilan des Eagles va jouer. S'ils finissent à 16-1 alors que les autres ont 4 ou 5 défaites, je ne sais pas s'il n'y aura pas une sorte de sentiment d'obligation de voter pour Hurts pour récompenser les Eagles. Parce que là, dans la projection qu'on a faite, les Eagles sont à 16-1 et ils ont 0 trophée. Tu vois. Donc, je ne sais pas à quel point ça peut jouer. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est Mahomes. Et Allen est juste là.
On oublie quand même souvent à quel point Newton était impressionnant cette année-là.
Il était très bon, mais je dis, c'est un peu à la Hurts. Il y avait de la passe, de la course, des victoires. Bon.
35 touchdowns à la passe et 10 à la course. Hein. 45 en cumulé cette année-là pour Cam Newton quand même. Il était inarrêtable dans la zone rouge notamment. Bon, on a deux Patrick Mahomes donc pour le trophée de MVP. On passe à l'affiche de la semaine. L'affiche de la semaine qui oppose les Bills, 6 victoires, 2 défaites aux Vikings, 7 victoires, 1 défaite. Et oui, les Vikings ont le meilleur bilan. Un match qui a déjà un gros voile, tu l'as un peu évoqué dans la rubrique précédente. Josh Allen est gêné par une blessure au coude au moment où on enregistre. On n'en sait pas beaucoup plus, on sait juste qu'il est un peu gêné, qu'il pourrait être gêné à l'entraînement. Et on n'en sait pas plus sur une éventuelle indisponibilité. Voilà, il a terminé le match malgré ça la semaine dernière, donc ce qui est déjà quand même...
Mais il a terminé un drive.
Voilà, bon, il a terminé un drive. C'est déjà un indicateur plutôt positif, il n'est pas sorti directement.
Ouais.
Quand même.
J'ai trouvé que c'est pas... Enfin, tu vois qu'il n'arrive plus à lancer, donc ça m'inquiète un peu quand même.
Je sais pas, je prends un exemple extrême. Il se serait fait arracher le bras, par exemple. Oui. Tu vois, comme dans Sacré Graal des Monty Python, avec le sang qui gicle de l'épaule et tout ça. Bon, peut-être que là, il serait sorti directement et on serait inquiet. Là, il a pu continuer. Donc, on va rester prudent. C'est la NFL, on sait jamais s'il peut jouer ou pas. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de forfait officiel. Donc, on va partir sur cette idée qui serait là. Les Vikings ont la 27e défense contre la passe. Si Josh Allen est opérationnel, c'est compliqué de le stopper avec la 27e défense aérienne. Donc on dit bim, game over, c'est bon.
Oh, ça serait évidemment trop simple. Ce qui est sûr, c'est que sur le papier, les attaques ont dessus sur les défenses. Parce que la défense des Bills aujourd'hui, Matt Milano est diminué, Poyer est blessé, je ne sais pas s'il va revenir cette semaine. Mika Hyde, on le sait, est absent toute la saison. Tre'Davious White n'est pas encore le Tre'Davious White qu'on connaît. Ça fait quand même beaucoup de blessures, quoi. C'est globalement, les defensive backs, c'était quand même le moteur de cette défense. Et là, t'en as deux et demi qui sont blessés. Donc, quand même, je dirais que... En plus, c'est pas un prime time. Donc, c'est bon pour Kirk Cousins. Je dirais que les deux attaques doivent dominer les deux défenses. Après, oui, si tu regardes poste par poste qui a l'avantage, les Bills ont un avantage certain sur le papier.
En vrai, je posais la question de savoir s'ils allaient dominer parce que l'attaque des Bills n'a pas été si impressionnante la semaine dernière contre les Jets, si tu as un Allen diminué, et je trouve que ça manque un petit peu de relais derrière Stephon Diggs. Je l'ai déjà dit dans l'émission d'hier, mais Gabe Davis marque le pas. Et derrière, c'était un peu plus dur quand il n'y avait pas de... il est, tu vois, je vérifiais, 33 yards contre les Jets, 35 contre les Packers.
Ah bah tu c'est vois, sûr a... qu'avoir un Dalvin Cook ou un Tillin en receveur 2, c'est peut-être plus rassurant, oui.
Ça a l'air plus profond, en fait, sur les skills players du côté de Minnesota.
Je suis d'accord.
Bon, sur le papier, les Bills gagnent beaucoup plus de yards. Tu l'as dit, ils en prennent beaucoup moins. Dans quel scénario les Vikings gagnent? Parce que, tu l'as dit, il y a quand même des meilleurs skills players. Moi, je me disais, est-ce que c'est pas le match où Dalvin Cook doit sortir de sa boîte au sol? Il a qu'un seul match à plus de 100 yards cette saison. Est-ce que c'est pas le match où ce serait bon de doubler la mise?
Bah, moi, quand je regarde les défaites des Bills face aux Dolphins et aux Jets, je vais être assez simple et voilà. Pour gagner un match de foot américain, le plus simple, c'est de gagner la bataille des turnovers. Et je trouve que les Vikings, bah, ils perdent peu de ballons. Ils perdent très peu de ballons. Alors, il y a eu un ou deux matchs, notamment celui des Eagles, qui a été catastrophique. Alors, du coup, ça baisse un peu à stade global. Mais on va dire que dans la plupart des matchs, ils sont quand même très propres. Et à l'inverse, les Bills, bah, j'ai trouvé que Josh Allen, peut-être justement à cause de ce manque de soutien, comme tu disais, du jeu au sol et des receveurs 2, il prend parfois un peu trop de risques. Donc, je dirais qu'il faut avant tout ne pas paniquer, jouer le jeu et tenter de gagner au point. Je pense pas qu'il faille, se jeter corps et âme en attaque en se disant on va marquer plus qu'eux, on va être plus spectaculaire et tout. C'est là où je te rejoins, Dalvin Cook, qui peut être intéressant pour contrôler l'horloge, pour des gains faciles, pour des choses comme ça. Je pense pas qu'il ait besoin de faire 200 yards. Mais par contre,
c'était un peu l'idée, ouais.
Lui pourra soutenir Cousins.
C'était un peu l'idée, ouais, de dire tu monopolises le ballon, tu limites les erreurs. Un peu le match typique hein, quand tu veux battre une grosse équipe. Les Bills n'ont pas pris plus de 21 points cette année. Est-ce que les Vikings peuvent le faire?
Oui. Je ne dis pas que c'est automatique. Mais est-ce qu'ils peuvent le faire? Oui.
Donc, mine de rien, c'est un match plus serré qu'il en a l'air.
Ah, ben c'est un match serré. Moi, je trouvais qu'il avait l'air serré.
Très bien. Très bien. Je signale quand même qu'il pourrait... mélange de pluie et neige, je ne sais pas comment on dit. Il pourrait pleuger, un mélange de pleuvoir et neiger, avec une température assez basse. Les Vikings jouent dans un dôme, ils ne sont pas particulièrement habitués. Je ne sais pas si ça peut jouer selon toi. Sachant que Buffalo a le jeu le plus aérien, donc en théorie, c'est peut-être eux qui sont plus désavantagés si vraiment il neige, par exemple.
Tu sais, Kirk Cousins, il a joué dans le pire stade du monde, hein.
C'est vrai.
Donc, je pense qu'à partir du moment où tu as survécu au stade de Washington, tu peux jouer partout.
Bon, très bien, ce ne sera pas un paramètre. La dernière fois que les Vikings ont battu les Bills, c'était Brett Favre, le titulaire. C'était en 2010. Alors, OK, il n'y a eu que deux matchs depuis, ouais, évidemment. Ça fait genre une stat terrifiante, mais bon, voilà, je sais. Franchement, s'il n'y a pas d'énormes trous d'air des Vikings comme ils peuvent en avoir, il y a match.
Ouais, ouais, je suis d'accord.
Alors, on va faire un double prono. Plus un petit pronostic subsidiaire. Si Josh Allen est là, c'est quoi le prono?
Si Josh Allen est là, c'est les Bills.
Les Bills également. Si Josh Allen n'est pas là et que c'est donc qu'est-ce qui nomme le quarterback titulaire?
Je dirais quand même c'est les Vikings. Du coup.
Qui fait le plus gros match entre Justin Jefferson et Stephon Diggs? Parce que c'est une petite histoire dont on n'a pas parlé quand même, mais ils sont plus ou moins échangés l'un contre l'autre, puisque Stephon Diggs part à Buffalo contre un premier choix de la draft qui est devenu Justin Jefferson. Qui fait le plus gros match?
Stephon Diggs.
Ah ouais.
C'est ouais, plus dilué, surtout avec l'arrivée d'Hawkinson, c'est quand même plus c'est dilué vrai. Aux Vikings.
C'est vrai. Bon, je mettrais bien une petite piécette quand même.
Mais tu sais que quand je vois que vous avez tous joué les Bills... Et je vais pas te mentir, mais ça me démange un peu. Hein.
Bah écoute, vas-y. Hein, non, t'es non, derrière non. Au classement, on me tente. Hein.
T'es derrière, je suis troisième à un point de toi. Non, il y a deux points de la tête.
Donc, je flambe un petit peu tant que je suis pas trop mal. Bon, les Bills pour tout le monde.
Allez.
Allez, c'est parti pour les Bills pour tout le monde et pour le jingle du hypomètre.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special!
It's our night, and it's our division! It's our time to go win it! We're gonna start fast and finish strong!
Yes, sir!
We're gonna work on three! One, two, three, work!
Les pronostics, et on en parlait donc avec Victor, les pronostics de la semaine 9, ça a donné 10 points pour Raoul. Raoul leader, dis donc. Ah oui, c'est le seul qui a joué les Jaguars contre les Raiders,
ouais.
Le coquin. Victor, tu fais le plus mauvais score, tiens, avec 7, et entre les deux, il y a Lucas, Raphaël et Greg à 8, et je suis à 9. Au classement général, 81 points pour Raphaël, 80 pour moi, 79 pour toi, 79 pour Greg, 77 pour Raoul et 72 pour Lucas. Le leader est donc Raphaël avec 59,6% de bons pronostics. On va bientôt s'approcher des 60%. On remonte doucement la pente. Les hypomètres, est-ce qu'on commence par Buccaneers Seahawks quand même parce qu'il est à Munich?
Oh bah, si tu veux, moi ça me va très bien. Je suis joie.
Très bien. Bah oui, tu y vas en plus.
Bah oui.
Méga hype. Tu peux pas être plus hypé que ça. Tu vas voir, enfin, tu vas pouvoir en voir d'autres parce qu'il finit tôt, mais quand même, c'est la hype. Qu'est-ce que tu attends le plus dans ce match alors?
Qu'est-ce que j'attends le plus dans ce match? Du spectacle.
Moi, je n'en mets pas de la stat qui dit que les Buccaneers marquent 18 points par match et les Seahawks 26,8.
Oui, non, c'est sûr que c'est impressionnant.
Ils ont une meilleure attaque de plus de 7 points par rapport à l'attaque de Tom Brady. Geno Smith enterre Tom Brady offensivement cette année. Voilà, ça devrait être l'inverse, c'est ce qu'on attendait. Sur quoi ça va se jouer alors, ce que tu vas voir?
Bah, je pense que déjà, il y a quand même le côté, est-ce que ce dernier drive des Buccaneers contre les Rams peut être une sorte de déclic? Tu sais, on a souffert ensemble, on a gagné ensemble au dernier moment, on va retrouver cet esprit d'équipe qui nous a fait gagner les deux dernières années.
Ah bah merci, c'est avec toi que j'aurais dû faire le débrief parce que Raphaël, il me croyait pas trop, mais c'est exactement ce que je disais, ça peut être le début d'un petit quelque chose.
Ah ouais, non, moi j'y crois.
Très bien, merci.
Et du coup, bah, du côté des Seahawks, j'ai envie de dire qu'il y a moins de pression, hein. Globalement, c'est juste continuer cette magnifique saison surprenante, jouer le jeu, pas se prendre la tête et tenter de gagner. On va dire que si les Buccaneers sont à l'image de ce début de saison, problème dans la red zone, erreur inhabituelle, pas de jeu de course, bah j'ai presque envie de dire que le favori, c'est Seattle. Hein. Sur la première partie de saison, le favori, c'est Seattle.
Bah ouais, j'ai du mal à pronostiquer. J'ai du mal à pronostiquer ce truc. Moi, je suis indécis. Vous avez... Non, Raphaël a mis les Seahawks. Et c'est le seul. Tout le monde met Buccaneers. Je vais dire Buccaneers. Tu prends les Bucks?
Ouais.
Allez, je te laisse enchaîner. Ton match hype suivant.
Bah, du coup, j'avais en 3 Buccaneers Seahawks. Alors, en 2, j'avais 49ers Chargers.
Ok.
Parce que j'ai plusieurs questions. Qui sont ces Chargers moribonds qui gagnent, hein, mais qui gagnent moche, hein? Où est passé le Justin Herbert flamboyant d'une autre époque? L'autre question que j'ai, c'est les 49ers, sur le papier, c'est beau, mais est-ce que l'infirmerie va enfin se vider? Est-ce que la greffe McCaffrey a vraiment pris et on va voir chaque match un Christian McCaffrey décisif? Il y a beaucoup de choses, j'ai envie de voir. En fait, ce match-là, c'est... Les Chargers sont dans une course terrible où va y avoir 5 équipes qui méritent les playoffs et il y en a 2 qui ne le feront pas dans les wildcards AFC. Donc, il faut gagner des matchs maintenant. Et du côté des 49ers, tout le monde dit, et moi le premier, ça t'avait un peu choqué, enfin choqué au sens gentil du terme, hein, mais quand j'avais dit qu'ils étaient aussi bons que les Eagles, c'est une équipe, voilà, on pense tous qu'ils sont très bons, mais c'est sûr qu'à un moment, si tu perds un quatrième match, là, tu vas commencer à te mettre en difficulté. Donc, ça serait bien que tu sois réellement très bon très vite.
Tu pronostiques qui ?
C'est
dur, hein. C'est dur.
Ah, les 49ers, quand même, je continue à croire en eux, mais ouais, c'est pas gagné.
C'est Garoppolo ou c'est McCaffrey le baromètre maintenant de l'équipe ?
Oh, dans le système Shanahan, c'est McCaffrey.
Packers Cowboys pour moi derrière.
Okay.
Pourquoi les Packers ? Parce que c'est un peu comme un accident de voiture. Tu sais, je peux pas m'empêcher de regarder. J'en suis encore au stade où je peux pas m'empêcher de regarder. Les Cowboys ont 33 sacks. C'est la meilleure équipe de la ligue avec un match de moins que certaines en plus. Donc, que va-t-il arriver à Aaron Rodgers ? Je ne sais pas. Va-t-il prendre 40 sacks ? Va-t-il lancer 40 touchdowns ? Je n'en sais rien. C'est plus probablement. Je pense qu'on sera plus proche des 40 sacks que des 40 touchdowns. Voilà, Aaron Rodgers en perdition contre une des meilleures défenses de la ligue. C'est quand même pas une rivalité, mais c'est un match important en NFC. Il y en a eu quelques-uns en playoff ces dernières années. Bref, ces deux équipes glamour, ça me hype. C'est à 22h25. Et vraiment, encore une fois, c'est plus de la curiosité malsaine par rapport à ce qui va arriver aux Packers. Je prends les Cowboys.
J'espère bien que c'est de la curiosité. Oui, j'ai du mal à m'enthousiasmer. Pour le coup, un peu différent de toi, j'ai un peu passé de cap là. Je pense que j'ai un peu passé de cap. Les Packers sont nuls, quoi. En fait, ils sont nuls, ils sont mal coachés. Ils manquent de joueurs en attaque. Ils ont une star qui boude. Bon, ça, c'est pas non plus une surprise démentielle. Parce qu'il a quand même boudé plus d'une fois dans sa carrière, hein, notre cher Aaron.
Ceci étant dit, je me félicite de les avoir annoncés comme surcotés au début de la saison.
Oui, mais tu vois ce qui...
C'est ma réussite de l'année.
Rodgers, il a souvent râlé. Mais même quand il râlait à l'époque, bah, il répondait sur le terrain, quoi. Là, ouais, quand tu le vois lancer 3 interceptions dans la zone rouge, c'est fatigant, hein. Franchement, tu vois ça, c'est triste. C'est triste.
Allez, Packers pour Cowboys pour tout le monde.
Packers pour tout le monde. Oui, je pense Cowboys pour tout le monde. Oui. Du coup. Ouais, mais alors là, je suis. Ah si, je sais. Je vais prendre Bears Lions.
Je l'avais pas loin. Ouais.
Parce que bon, les Lions, c'est une fois sur deux, certes, mais il y a quand même un potentiel.
Justin Vick. Il y a Justin Vick surtout dans ce match. On s'en fout des Lions.
Justin Vick.
Mais Justin ouais, Fields. Justin Vick Fields.
Non, mais voilà. Enfin, je veux dire, ma hype, elle vient principalement de Chicago.
Ah bah, j'espère que... Non, c'était pour voir une équipe coachée par Dan Campbell, vraiment.
Ouais, pour qu'ils me disent qu'il est allé boire une bière. Non, mais tu vois, enfin... Moi, j'avais un peu démonté Justin Fields il y a un mois... On m'a dit, ah, tu vas voir. J'ai écrit, hein, j'ai dit, j'espère me tromper. Bah, là, je suis en train de me tromper. Parce que clairement, ce qu'on a vu ces deux dernières semaines, c'est que bizarrement, quand tu le mets un peu en confiance et que tu lui donnes, on va dire, les clés du camion, il est capable de faire de belles choses. Il court plus qu'attendu, parce que ça n'a jamais été un énorme coureur non plus. C'était un bon coureur, mais pas un énorme coureur en université. Écoute, bravo à lui. Bravo à lui, j'ai rien à dire, c'est vraiment bon. Et là, il faut qu'il confirme, quoi. C'est-à-dire que là, il faut battre les Lions facilement, entre guillemets.
Bon, battre les Lions facilement, je ne sais pas s'il y arrivera, mais en tout cas, c'est clairement ça qui me hype. Tu pronostiques qui ? Des Bears, du coup ? Est-ce qu'il y arrive à battre les Lions ou pas ?
Oui, quand même.
Ok, Bears également. Rams Cardinals pour moi, on est toujours un peu dans le même phénomène de sidération qu'avec les Packers. Les Rams qui gagnent, qui marquent 16,4 points par match, c'est pareil, hein, c'est comme les Buccaneers, c'est improbable. Ils ont gagné le premier match. Honnêtement, offensivement, c'est quand même très pauvre des deux côtés. Ça se résume à Cooper Kupp contre DeAndre Hopkins pour moi.
Oh, peut-être c'est pas le... quand même, mais
on... pas loin. Hein.
On va dire que. Je sais pas. En fait, les Cardinals sont tellement mal coachés que je me dis que les Rams doivent quand même trouver une solution pour les battre. Quoi.
J'ai hésité beaucoup de temps avant de le pronostiquer et clairement, c'est ce qui a fait pencher ma décision. Peut-être coaching.
Ouais,
même
ouais.
Si McVay n'est pas exceptionnel cette année. Hein.
Ouais, mais bon, il y a quand même Donald, il y a quand même Ramsey, il y a quand même des mecs qui peuvent faire, tu vois, le play qui fait tourner le match. Alors, c'est marrant, c'est que j'avais aussi Octoi dans le hypomètre, mais je pense qu'il y a un potentiel match dégueu qui est assez haut.
Ah oui, 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 non, mais il va être vilain.
Ouais, ouais.
Il va être vilain, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, les Rams pour tout le monde, alors.
Oui.
Match suivant.
Alors, match suivant, c'est Dolphins-Browns. Et sauf mon respect pour les Browns, voilà, j'ai l'impression que c'est une des équipes, semaine après semaine, dont on n'apprend rien. C'est une équipe moyenne qui a des forces et des faiblesses et qui va gagner des matchs et perdre des matchs. Par contre, les Dolphins, comme je disais, ils sont eux aussi dans ce panier de crabe des équipes pour les wildcards en AFC, même si c'est pas hors de propos de penser que si les Bills continuent à enchaîner les défaites, les Dolphins peuvent gagner la division, hein, mais là, les Dolphins, c'est le genre de match qu'il faut les gagner. Quoi. Faut les gagner. T'es meilleur, prouve-le. Mais là, t'es meilleur.
Et puis, moi, j'aime bien ces renversements de l'histoire. C'est-à-dire qu'avant, on se demandait si les Dolphins pouvaient suivre quand le score s'emballait. Maintenant, on se demande si les gens peuvent les suivre, ce qui est quand même plutôt sympa pour eux. C'est beau de voir que maintenant, les gens essayent de suivre Tua Tagovailoa, alors qu'avant, on se demandait s'ils pouvaient suivre qui que ce soit. Les Dolphins, pour moi.
Oui, les Dolphins, pour moi aussi.
Chiefs-Jaguars derrière. Parce que équipe très très fun avec les Chiefs, équipe pleine de jeunes joueurs intéressants à voir jouer avec les Jaguars. Ils vont se jauger contre une grosse équipe. Je pense qu'il n'y a clairement pas de contestation sur qui est le favori. Donc voilà, ça ne me semble pas être un scénario à gros suspense, mais voir jouer Patrick Mahomes, c'est toujours fun. Et voir les progrès de Travis Etienne, de Trevor Lawrence, etc. C'est intéressant, même Walker derrière en défense, etc. Donc les Chiefs, pour moi, dans un match avec deux équipes intéressantes.
Oui, je pense que tu as à peu près résumé. Surtout les Jaguars, ils ont... Alors c'est vrai qu'ils ont loupé le début de match hein, contre les Raiders, mais derrière, ça a déroulé en attaque. Et quand ça déroule, bah, c'est sympa à voir jouer. Hein. Moi, je me souviens, j'avais fait le 24-0 contre les Colts. Je crois que c'était 24. Quand ça tourne en attaque, c'est joli à voir jouer. Ça alterne. Il y a des solutions, hein, mine de rien. Hein. Il y a Etienne, il y a Kirk... Il y a les deux Jones, enfin, il y a de quoi faire. Je pense que ça va être un match, en termes de agréable à regarder, ça va être très haut dans cette semaine, je pense.
Tu pronostiques qui ?
Oh, Kansas City quand même.
Kansas City, ton match suivant.
Alors, Panthers-Falcons. Parce que... Je sais. Laisse-moi t'expliquer. Assis-toi, prends un fauteuil. Parce que c'est un match de division, déjà. Bonus match de division, vous commencez à me connaître. Hein. Bonus match de division, toujours. Dans une division qui est grande ouverte. On peut se moquer, mais les Falcons, aujourd'hui, ils ont une vraie carte à jouer pour remporter cette division. Donc, les Panthers, ok, ça a été affreux la semaine dernière, PJ Walker, tout ce que tu veux. PJ Walker, avant ce match affreux, il fait une victoire, il fait un match incroyable à rebondissement contre les Falcons. Enfin, il a fait deux matchs fun pour un match dégueu, et tout le monde part du principe qu'ils seront dégueux jusqu'à la fin de saison.
Je trouve toujours
qu'ils ont des armes et quelques talents, et c'est une division qui part tellement dans tous les sens que le vainqueur de ce match peut être leader de division. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a quand même... ça serait dur de le reléguer à cause d'un match affreux des Panthers.
Non, mais ça va beaucoup courir. Il y a de la faiblesse au poste de quarterback des deux côtés. Moi, je suis éternellement déçu par la défense des Panthers, parce que franchement, je pensais que ça ferait mieux que 14 sacks cette année et que voilà, ce serait plus mordant. Ceci étant dit, oui, c'est un match qui peut être fun. C'est le match du jeudi soir, hein, d'ailleurs. Donc, il sera seul en prime time. Je vais aller sur les Falcons. Ils ont gagné le premier match. Je vais aller sur Atlanta, mais sans grosse conviction. C'est un match qui peut tomber des deux côtés.
Oh, moi, je vais aller sur Atlanta, mais avec une petite conviction quand même. Je pense que c'est bien coaché. Ça va le faire. Après, s'ils disent à leur lineman de se coucher et de ne pas courir avec le ballon pour faire des fumbles dégueux, mais sinon, ça devrait aller.
J'enchaîne avec Eagles-Commanders, qui est un match de division et où j'ai l'impression que Philadelphie fait un peu tout mieux que Washington. Donc, il n'y a pas un énorme suspense sur le contenu, mais c'est un match de division. C'est des équipes qui aiment bien se jouer, s'embêter. Philadelphie est largement supérieure quand même sur le quarterback. Il y a un comité de coureurs qui est plus gros. Il y a un Terry McLaurin qui est génial côté Washington, mais il y a encore plus de receveurs côté Philadelphie. La défense est plus consistante. Donc, Philadelphie pour moi.
Ouais. Après, ça ne serait pas la première fois ces dernières années que Washington réussit l'exploit contre Philadelphie. Hein.
Non, c'est pour ça que je le mets un peu plus haut que la fin. Hein. Ça reste un match de division intéressant.
Ouais, ça reste un match de division. Les Cowboys, ils ont gagné. Les Commanders, pardon. Ils ont gagné moche contre les Colts, mais ils ont gagné. Ils ont perdu quand même. Ils ont tenu en respect les Vikings pendant la majorité du match. Les Vikings, ce n'est pas des peintres. Donc. Non, je pense que les Eagles devraient l'emporter, mais oui, ça sera pas facile.
Ton match suivant, il en reste 4. Pour moi, il y a un décroché qualitatif là, sur les 4 derniers.
Pour moi, il y a un décroché sur le dernier. Après, les 3 autres, tu peux les défendre.
Raiders, Colts, Titans, Broncos, Giants, Texans, Steelers, Saints.
Tu connais mon amour pour la FC Sud. Tu veux que je te vende des Titans ou des Texans?
Ah bah moi, après ce que j'ai vécu dimanche dernier, les Colts, ils peuvent aller...
Les Colts. Je t'ai demandé si je devais défendre les Titans ou
pardon,
les Texans.
Ah pardon, les Colts. Ah oui, pardon. Celui que tu veux. Les deux matchs, honnêtement,
Giants,
bon, on ne pas
Texans,
des matchs.
En vrai. Parce que j'ai trouvé que les Texans ont joué le match peut-être le plus intéressant de leur saison offensivement. En tout cas, la mi-temps la plus intéressante de leur saison contre les Eagles. Qu'ils ont certains talents qui permettent, malgré des limitations d'effectifs, d'être plutôt agréable à voir jouer une fois sur deux, on va dire. Et d'autre côté, on a les Giants. Les Giants, ils sont dans une situation un peu inédite cette saison, c'est-à-dire qu'ils sont grandissimes favoris. Mmh. Et alors, t'as montré que t'étais l'outsider magnifique, le machin, le truc. Comment tu te comportes quand t'es le grandissime favori? Et c'est ça que j'ai envie de voir. Est-ce que les Giants, ils peuvent dire, bah ouais, on est grandissime favori et on va gagner, alors bien sûr, ça sera pas, mais on va gagner 24-10 ou 21-10 et à la fin du match, les gens diront, bah ils ont jamais vraiment tremblé, quoi.
Les Giants pour tout le monde?
Yes.
Je sais pas lequel prendre entre les trois derniers, franchement.
Bah, prends le meilleur joueur.
Derrick Henry?
Bah oui.
Ouais, Titans Broncos. Derrick Henry contre Russell Wilson. Des Broncos qui sortent d'une victoire contre les Jaguars à Londres. Je pense que c'est la défense des Titans qui gagne ce match encore une fois, donc ça va être un truc genre 20-17 ou 17-14. Tu vois. Mais ouais, Derrick Henry, allez. Donc Titans.
Oui, je pense que Titans, oui. Après, les Broncos ont quand même gagné leur dernier match.
Ouais, il y a un potentiel.
Voilà, ils se remobilisent, on va dire. Et les Titans, bah déjà, il y a une question, t'annuil ou pas t'annuil, parce que... Pardon. Le truc, c'est que ces petites blessures, là, où personne communique, on les a vues, hein, ces Stinger, tu sais, qui étaient day-to-day. Ouais. Et qui dure 6 semaines.
Ça finit par faire une saison, ouais.
Ouais, on les a vus, hein, donc faut voir. Mais je pense que dans les deux cas, je jouais Titans, mais... attends, tout le monde a joué Titans? Ok, non, ouais. Je jouais Broncos. Allez.
Ouais. Après, on ne sait pas, avec les joueurs NFL, ils ne sont pas foutus comme nous, tu sais. Peut-être le mec, il a eu une crampe au pied, tu sais, comme toi, quand tu te réveilles le matin. Et en fait, lui, il a des muscles tellement gros, ça fait une déchirure sur 4 cm avec une hémorragie interne.
Non, mais c'est possible. Mais ouais, non, là tu vois, j'aurais misé Titans si j'étais tout seul. Mais quand je vois tout le monde miser Titans, j'ai envie de tester. J'avais fait pareil avec les Falcons la semaine dernière. Hein. Merci à ce lineman de mort d'avoir fumble.
Allez, il t'en reste deux.
Oh bah, Steelers Saints. Je te laisse ce feu d'artifice pour finir. Bah écoute.
En vrai, j'ai l'autre au-dessus.
C'est-à-dire ?
Si je suis pas de mauvaise foi, je préfère voir Raiders Colts que Steelers Saints.
Ah bon ?
Bah, c'est un peu l'infirmerie bowl quand même, Steelers Saints, quoi, tu vois. À part les progrès de Kenny Pickett, voir jouer Andy Dalton sans 14 receveurs, la moitié de sa défense, pas TJ Watt, tu vois, Najee Harris qui va courir derrière une ligue qui cherche à le tuer.
Kenny Pickett, bon. George Pickens, Minka Fitzpatrick, Chris Olave, Cameron Jordan. Ouais, mais... Il y a trop de stars, quoi.
Ouais, mais Josh McDaniels contre Jeff Saturday, tu peux pas test, tu vois.
Ah, Jeff Saturday, ouais.
Ouais. Bah ouais, moi les débuts d'un coach, ça met de l'intérêt. Donc je l'aurais mis au-dessus pour ça.
Petite pensée à tous les mecs qui depuis 15 ans sont assistants DB dans l'espoir d'un jour être coordinateur. Alors attends, puis coach.
Là on est sur Steelers Saints, tu prends qui?
Je vais prendre les Saints quand même parce que je crois plus en leur potentiel offensif malgré tout. Surtout que Kamara, bon, il y a des matchs où quand il est là, ça se passe bien. Et mine de rien, même s'il y a Kame Ward, même s'il y a défense tier, c'est pas ridicule. Sans TJ Watt, c'est quand même pas la même défense, on l'a vu. Donc je pense que les Saints s'en portent au point.
Les Saints également. On termine avec donc Raiders Colts. On le disait, Jeff Saturday pour son premier match en tant que coach. Il y a une semaine, il était analyste à la télé. Il a jamais rien coaché à part des lycéens. Sam Ellinger reste son quarterback puisqu'il l'a annoncé dans l'intervalle de la dernière émission. Sam Ellinger reste le quarterback d'Indianapolis. Je ne sais vraiment pas ce qu'on doit attendre. Il a choisi un assistant de 30 piges pour appeler les jeux offensifs. Bon, voilà. Mais en vrai, il a un potentiel... divertissement en tout cas ce match parce que t'as des Colts donc avec un nouveau coach et tout ça et Josh McDaniels c'est des Raiders qui sont quand même très forts pour se saborder cette année donc j'aimerais pas être fan d'une de ces deux équipes dimanche parce que vraiment tu vas vivre des moments durs je pense.
Ouais, moi je te dis je pense que le recrutement de Saturday c'est le pinacle d'un grand n'importe quoi. Et du coup, je pense qu'il faut s'arrêter là, quoi. Ça, clairement, ils sont là pour perdre des matchs. Et à moins que les Raiders se mènent 17-0 et se sabordent encore une fois, parce que on sait jamais, hein, ils ont tellement de potentiel de sabordage.
Tu pronostiques les Raiders, du coup?
Ouais, largement.
Tu sais que j'ai. Eh ben, écoute, dans ma vidéo Unibet de la semaine, j'ai mis les Colts en cote surprise de la semaine, en prévenant évidemment que c'était la plus folle tentée de cette semaine. Mais tu sais quoi, ces deux équipes elles font tellement n'importe quoi que quitte à tenter une surprise, il y en a une par semaine avec un nouveau coach, c'est un ancien lineman offensif, peut-être qu'il va redonner vie à cette ligne offensive de manière incroyable et que ça va faire une victoire pour les Colts. On peut espérer, ça fera un match fun. Bon, Raiders, j'ai mis les Raiders sur en sec par contre sur les pronos, hein. Ouais. Allez, Raiders pour tout le monde. Au repos, les Bengals, les Patriots, les Jets, les Ravens. Le programme complet dans l'ordre. Ça donne le match du jeudi entre les Panthers et les Falcons. 15h30 dimanche, Buccaneers Seahawks à Munich. Avec Victor Roulier sur place qui vous fera vivre ça sur nos réseaux sociaux, etc. 17h30, moi je prends l'antenne pour le fauteuil. 19h, les matchs. Bills Vikings, Bears Lions, Chiefs Jaguars, Dolphins Browns, Giants Texans, Steelers Saints, Titans Broncos. À 22h05 Raiders Colts, à 22h25 Packers Cowboys, Rams Cardinals. Dans la nuit de dimanche à lundi 2h20 49ers Chargers et dans la nuit de lundi à mardi 2h15 Eagles Commanders. On termine avec les cotes de notre partenaire Unibet. Les cotes de la semaine avec toi, Victor. Est-ce qu'il y en a une que tu as vue qui te motive déjà directement? Il y a des Rams à 1,50, il y a des Cowboys à 1,37, il y a des Seahawks à 2,05. Seahawks Bucks, c'est à 1,63 et 2,05. Donc si tu as vraiment la foi en une des deux équipes, ça se tente.
Oui, je pense que pour la cote, tu dois jouer les Seahawks. Ouais. Encore une fois, moi, alors ce sera peut-être après, mais les Broncos à 2,14, bon, je trouve que ça se joue.
Ok. Pourquoi pas. Mais on met les Seahawks.
Il y a beaucoup de favoris. Hein. C'est un peu difficile cette semaine pour le coup.
Oui. Ceci étant dit, tu vois, les Saints à 1,65.
Les Bears à 1,59.
Ah, les Bears, j'ai pas encore assez confiance pour mettre de l'argent dessus. Hein.
Ah, c'est ton problème.
Les Saints à 1,65, moi, ça me... je trouve pas ça délirant. J'ai toujours du mal à parier contre Tom Brady, mais c'est pour ça, parce que sinon, si Hawks a 2-0-5, si Hawks a 2-0-5, je pense que ça se joue. Hein. Je le parie, c'est dans ma vidéo Unibet de la semaine, je spoil, mais.
Non, ça joue, ça
mais
se joue
bon. Clairement. 2-14 pour les Broncos, 1-65 pour les Saints. La troisième, on fait qu'on met les Seahawks alors.
Ouais, les Seahawks.
Allez. 2-14 les Broncos, 1-65 les Saints, 2-0-5 les Seahawks. Allez, YOLO, j'ai dit les Colts. J'assume jusqu'au bout.
Okay.
Ils sont où les Colts? Ils sont à 2-85. YOLO, les Texans, je suis pas sûr qu'ils s'en sortent quand même. Non. Les Vikings qui gagnent, c'est YOLO ou pas alors? Il y a un scénar. Hein
ouais. Non, c'est YOLO, mais j'ai envie de dire pas YOLO, impossible non plus.
Ouais. Et alors, les Chargers sont à 3-25 contre les Niners.
Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup.
C'est beaucoup, hein.
Ouais.
C'est beaucoup. Bah écoute, je la rajoute au YOLO, 3-25, les Chargers. Les Commanders sont à 4-25 hein, contre Philadelphie, ça commence à faire beaucoup. Les Chargers à 3-25, les Vikings à 2-65 et les Colts à 2-85 s'ajoutent aux trois précédents pour former notre YOLO à 5 euros misé. 954,62 € de gains potentiel. Et bah c'est pas mal ce petit YOLO, évidemment. Vous jouez avec prudence, vous faites attention, vous pouvez fixer des limites et vous appelez le 09 74 75 13 13 si vous sentez que vous perdez le contrôle. C'est un numéro non surtaxé. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide. Merci beaucoup, Victor.
Ben, merci à toi.
C'est comme ça qu'on termine l'épisode numéro 536 du podcast Jean Actu. On vous remercie de nous écouter, on vous remercie de nous soutenir sur Tipeee, on vous remercie aussi de laisser des évaluations ou des notes et des commentaires et tout ça sur les applis de podcast. N'hésitez pas, ça nous aide bien aussi à remonter dans les classements. Pour nous suivre, vous avez l'habitude, les réseaux sociaux à TD Actu, pour Twitter, Facebook et TikTok, Instagram c'est Touch Jean Actu en entier et tdactu.com pour le site. Merci encore à Victor. On se quitte en musique. Attends, je coupe la musique. Victor, le sujet de l'émission draft de demain?
Eh bien, on ne sait pas encore parce qu'on n'a pas enregistré et qu'on doute entre deux sujets. C'est la première fois que ça arrive, mais on l'enregistre seulement le jeudi, donc vous le découvrirez en même temps que Alain vendredi.
Très bien. C'est la semaine du non-teasing parce qu'au moment où on enregistre, le sujet de l'émission draft n'est pas choisi. Le sujet de l'émission rétro, je l'ai vaguement, mais j'ai pas trouvé l'épisode. Et le sujet du fauteuil n'est pas encore calé non plus. Donc je ne peux absolument rien vous teaser pour le moment. Ça va être une prépa de fin de semaine active. Merci encore, Victor. En tout cas, on se retrouve très vite sur les ondes de Jean Actu. Et moi, je vous dis à dimanche 17h30 dans le fauteuil. Ciao, ciao.
Analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.